Que la paix soit avec vous. Salam alaikum. Okapi Action, ce parti pour aujourd'hui. L'Union des consommateurs du Congo a constaté que la situation générale des consommateurs ne fait que se détériorer. L'UCC note la quasi-existence du inexistence du pouvoir d'achat, la présence sur le marché des produits et services de mauvaise qualité. L'Union persiste et signe la majorité des produits dans le commerce est de faible qualité. Les statistiques sont des indicateurs importants de la croissance économique. Elles permettent d'évaluer le niveau de développement d'une communauté donnée. La classification des pays en fonction de leur croissance se réalise grâce aux données chiffrées fournies par les États. Quelle est l'importance des statistiques? Comment les collecte-t-on? Comment les utilise-t-on? On en parlera tout à l'heure. Et puis, vous avez dit personne avec handicap physique. Oui, handicap physique seulement, mais capacité intellectuelle au zénith. C'est ce que Radio Okapi a constaté. Okapi Action s'est rendu dans un centre d'éducation pour personnes vivant avec handicap physique. Et croyez-nous, on a découvert des merveilles. Ils sont plus capables que certaines personnes physiquement aptes. Et puis, on ira à Bounia pour évoquer une question de vie de tous les jours, le problème de l'approvisionnement en médicaments. L'ONG MEDER, Malteser et Memisa Belgique essayent de donner un peu de médicaments aux malades, aux nécessiteux. Malheureusement, la demande de la population est très forte. Comment équilibrer la forte demande et les produits médicamenteux disponibles? C'est ce qu'on fera avec Godly Vomondo en direct de Bounia. Voilà, vous savez un peu tout pour le magazine de ce matin. Disons en termes de titre, des réactions, de suggestions, faites-les, n'hésitez pas. Participez à ce magazine en appelant au numéro que vous connaissez et je vous propose de recourir au service de mon très cher ami Rémi Césaire Tchamala. Il va nous le rappeler.
Okapi Action 081 89 0 68 90.
Tout le monde s'y met dans Okapi Action. Rémi Tchamala, Mimi Kindou à la mise en onde, Jolie Laure Mbalivoto à la régie, Walter Molandi Mbaïrini au micro, Nathalie Moteba à la programmation musicale. Ben voilà, je vais citer d'autres personnes après, mais on va pas commencer par là. Nous le disions tout à l'heure, on constate que les produits mis sur le marché en République démocratique du Congo sont de mauvaise qualité. C'est la foi, en tout cas, de l'Union des consommateurs du Congo. Ils disent que tous les produits sont mauvais. En tout cas, la grande majorité, quasi inexistence du pouvoir d'achat, présence sur le marché des produits et services de mauvaise qualité. On en parle avec Donna Madimba. Donna Madimba qui fait sa grande rentrée dans l'équipe des Okapi Action. Donna, bonjour.
Bonjour Walter.
Alors, vous avez rencontré les délégués de l'Union des consommateurs du Congo. Quels sont les produits concernés par cette analyse de mauvaise qualité?
Oui, nous avons la chance d'avoir plus tard dans cette même émission le président de l'Union des consommateurs du Congo qui lui-même va s'apesantir en détail sur certains aspects. Mais de l'entretien que nous avons eu déjà avant cette émission avec l'Union des consommateurs du Congo, nous pouvons déjà dire que l'Union critique beaucoup les Thompson ou Chinchard vendus dans les différents marchés du pays. Selon l'Union des consommateurs du Congo donc, non seulement que de grandes quantités de ce poisson actuellement vendu au pays sont de mauvaise qualité parce qu'abîmés, mais l'Union estime aussi que le Thompson est déjà problématique parce qu'il est un poisson bas de gamme, c'est-à-dire de qualité inférieure, ça c'est l'Union qui le dit. Toujours dans sa dénonciation, l'UCC, l'Union des consommateurs du Congo, critique aussi les vêtements, les médicaments, mais aussi d'autres produits surgelés comme les tripes, qu'on appelle généralement les maboumous, et les cuisses aussi.
On dit michopo aussi, c'est dans le lot.
Oui, bon, c'est dans le lot, parce que les michopo, on voit beaucoup plus les poulets, la volaille, hein, les michopo, ça renvoie beaucoup plus à ça. Et pour le grand bétail, généralement, on parle de maboumou. Hein, généralement, on voit les vaches, les chèvres, hein, ces gros animaux. Hein. Mais l'Union critique aussi, comme je le disais, d'autres produits surgelés, comme les cuisses et les maboumou vendus actuellement en République démocratique du Congo.
Okay. Dona Madimba, ça c'est l'Union des consommateurs du Congo qui le dit. Ouais. Est-ce que les consommateurs eux-mêmes s'interrogent sur la qualité des produits qui leur sont proposés?
Ben, toutes les personnes rencontrées pour ce reportage, sur le dossier dont nous sommes en train de parler, affirment préférer la qualité. Mais toutes ces personnes aussi affirment ne pas avoir beaucoup le choix, car les situations qui se présentent ne dépendent pas toujours de leur bonne volonté. Et pour leur donner la parole, je vous propose d'écouter quelques-uns d'entre elles.
Les produits pharmaceutiques n'ont pas d'amis aux médecins commis, et puis n'ont pas la date d'expiration. Donc, les médecins n'ont pas d'amis, il faut que l'on ait la spécialité. On a la question de l'amour, ils ont importé. Mais les items sont préférés à la chambre de foie. Parce que eux, ils ont été à Zandu, et où ils ont été à Zandu, ils ont été à Alors, on a préféré au moins qu'on soit dans la chambre, il faut être mieux.
Disposition, on a aux Ouakango depuis Kala ou bien au Bandi Kozongo pour la Mikolo et on est typhoïde et Bandi.
Depuis, ça fait au moins 4 ans, ma belle a typhoïde, ma casse. Alors, il y a typhoïde de l'autre, on a un bilo au Dolia, il y a un balaba.
Papa, on a eu mal à moi, taille au Mogondengo, ça bon, on a fondé ma théorie et l'eau à ma belle, on a eu le roi à ma lame. Mais tant au moins, on a eu ma belle. Ba permettre ngoza na kati ya wenze elekiba mboge bele yoko koma awa bo pase ezali okosani osomika ka polo kwa balingi babo mabisa babo mika alibela
ebongo yo moya ozwa oyo msusu ya bien ezate
ah papa Nikolo toza kaka baze na likayabu kaka tosani
donc d'après nga so nsoma bi na s'intéresse mi na qualité la quantité te qualité fla ta qualité lo ni na zo somba par exemple ba bloko musene ba mabumo ba ni net c'est derema na tosoma bumo boye ça vous sentir un gros sur le bien très maman mais maman mais bon moi on se le bien te bon nini la dit ok loco les armes ma sous place bon 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 directement là c'est mes fiers sont mal ensuite pendant qu'on déjà bon nous mais ça gaz
voilà ce qu'on peut retenir c'est que les consommateurs en tout cas ceux qui ont été interrogés s'intéressent à la qualité mais à l'impossible ni les tenues sont obligés ma foi de consommer ce qu'il leur est proposé. Mais autre chose, alors nous sommes partis de la dénonciation de l'Union des consommateurs de la République démocratique du Congo qui dénonce, qui veut se battre pour des produits de meilleure qualité, pour des services de meilleure qualité à l'intention des consommateurs. Est-ce que les consommateurs connaissent ne serait-ce que l'existence de cet organe qui est censé les défendre et se battre pour qu'ils aient des produits de bonne qualité, Donna?
Ben, il faut dire que l'Union des consommateurs du Congo n'est pas venue avec la dénomination actuelle du pays. Hein. C'est une union qui existe déjà depuis avec l'appellation de la République du Zaïre. Donc c'est une organisation qui existe depuis quelques années. Ouais. Mais l'union reste méconnue, pour ne pas dire pas connue du tout. Mm-hmm. De toutes les personnes abordées sur la question, une seule dit connaître l'UCC, donc l'Union des consommateurs du Congo, et même que cette personne était assez hésitante. On l'écoute.
Non, Natalia, on te papa nakolo balukuta. T'es ceux qui bango bazali ba soutenir biso. Pona santé, ceux qui bazana mangaba na Congo.
Non, yoka likambo na bango te.
Non, yoka ngo te papa ngana bi maga 5 na zonga ka 20 heures na weba ngondeni.
Merci ko yo pona bango. O ki ko pesa bango conseil te ba sani.
Ah, ceux qui bango na motema malamu ya bana Congo, ceux qui bango pe bazaba congolais.
En tout cas, le coup de ma belle, on a eu quand on était premier fois pour la voie. Donc, on a eu des gens qui sont en train de Alors, on a encouragé les gens qui sont en Ali, en tout cas, on a félicité, on a encouragé les gens qui sont en train de se faire. On a eu quand
on a eu un monde en route.
Il y a eu quel angle?
À partir de Ngou qui sont. Pourquoi on a tant de gens professeur?
Bon, il y a eu quand on a eu ça.
Bon, on a rencontré un peu loco. On a développé un prix. Na propriété bilo ko lia pour la santé abatu.
Ça fait combien de temps yoka sango ya likambo?
Bon plus moi il a
Bon organisation on a ce qu'ils allaient. Ce qu'ils a vraiment ya sur les jeux résister. Bilo ko biso to ko lia jamais malade ko za la mingi na mboka. Pa yo moko za journaliste. So ok vraiment na bopito ok au tala ba bato ba beli. Mamsusu moko ayi sa yo kenna bilo ko na lia ki lobio na somba ki na alimentation et ça qui bien te biloko na yango ekozenga ba diare na ken hôpital na ke mona na ba tifoïde à partir à biloko.
Sans commentaire, et bien voilà des réponses sur est-ce que on connaît l'existence de l'Union des consommateurs du Congo. Vous avez entendu ces quelques points de vue et quand même un espoir que si ça existe, alors que cette union fasse son travail. Je reviens à vous, Dona Madimba. Parmi les services dénoncés de mauvaise qualité, l'Union des consommateurs du Congo dénonce les soins de santé. Est-ce que vous avez abordé quelques médecins? Que disent les médecins à ce sujet? Est-ce qu'ils reçoivent des malades qui souffrent de certaines pathologies liées à la consommation des produits de mauvaise qualité ou impropres à la consommation, comme on dit?
Le médecin responsable de la médecine interne à la clinique Ngalima, par exemple, n'a à son niveau constaté en ce moment aucune épidémie de maladies liées à la consommation d'aliments impropres ou de mauvaise qualité. Mais le docteur Okenge, c'est le nom de cet interniste, docteur Okenge donc, estime cependant que de nombreux Congolais meurent de plus en plus sans que personne ne sache exactement de quoi ces personnes sont mortes. Le docteur Bwana Ali, c'est le responsable de la médecine interne à l'hôpital général de Kinshasa, ce docteur, lui, estime que la prudence s'impose à tous les niveaux, car aujourd'hui encore, par exemple, on continue à chercher ce qui est à l'origine de la typhoïde violente qui a été signalée à Kinshasa il y a 3 mois.
Péritonite.
Et qui continue de faire des victimes dans la population. Il y a 2 semaines, toujours selon ce médecin, docteur Bwana Ali, on parlait, selon lui, de 140 cas déjà identifiés de personnes victimes de cette typhoïde.
Cette typhoïde qu'on appelle la péritonite, dont on a fait un point, une couverture, et qui continue d'ailleurs. Voilà donc autant d'éléments. On constate que d'une part, l'Union dénonce une chose, les consommateurs, en tout cas une grande majorité aussi des consommateurs, déclarent ne pas savoir connaître l'existence de l'Union des consommateurs du Congo. Encore moins, il y a pas de précision sur la mission de cette union. Même le professeur qui aura appris que l'union existe n'a pas su définir la mission de l'Union des consommateurs du Congo. Donc il y a un flou là-dessus, il y a beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui. On va l'apprendre avec nos invités qui vont arriver tout à l'heure, avec vous aussi auditeurs, si vous nous appelez. Non, vous allez le faire parce que vous le faites souvent. Appelez au 081-890-68-90. Le temps pour moi de dire merci à Donna pour nous avoir fourni cet éclairage sur cette question d'importance capitale et d'intérêt public. Donna Madimba, merci beaucoup et bienvenue encore une fois dans l'équipe de Okapi Action.
Le plaisir est partagé quand on sait qu'il y a des milliers d'oreilles qui vous écoutent et qui attendent des infoservices.
Merci beaucoup, à bientôt Donna. Et voilà, Okapi Action, nous recevons nos premiers invités pour le magazine d'aujourd'hui. Le premier invité en face de moi, c'est l'honorable Georges Kombontonga Boké, président national de l'Union des consommateurs du Congo. Il est député. Monsieur Georges Kombo, bonjour.
Bonjour.
Si vous pouvez vous rapprocher du micro, je vous en prie. Et puis, par téléphone, nous avons Dr Miakala. Dr Miakala, bonjour.
Bonjour.
Dr Miakala, les auditeurs le connaissent, c'est le médecin inspecteur pour la ville-province de Kinshasa. Avec nos deux invités, nous allons aborder cette question. Tout est parti d'un communiqué de presse de l'Union des consommateurs du Congo qui dénonce la faible qualité des produits et services sur les marchés en République démocratique du Congo. Alors j'ai en face de moi le signataire de ce communiqué de presse, président national de l'Union des consommateurs du Congo, député aussi, l'honorable Georges Kombo. Qu'est-ce que vous dénoncez, monsieur Kombo?
Je vous remercie d'abord de l'opportunité que vous accordez à l'Union de s'exprimer. Ce que nous dénonçons d'une manière générale, c'est la médiocrité, la mauvaise qualité de la vie. Et cela a plusieurs volets. Les gens ont souvent tendance à croire que par la consommation, il faut simplement voir les aliments. C'est la qualité de la vie, d'une manière générale, qui ne fait que se détériorer dans notre pays. Voilà, globalement, ce que c'est.
Mais en fonction de quoi est-ce que vous êtes arrivé à ce constat-là?
Mais ce constat, en fonction de quoi, je ne vous demanderai pas de répondre à ma place, puisque je sais que vous êtes consommateur, je sais que vous vivez le même constat, vous vivez, quand je vous vois là, de votre maison jusqu'ici, vous avez vécu sûrement une mauvaise qualité de transport, vous vivez un air pollué, vous êtes chez vous à la maison, vous êtes sous-alimenté, qualitativement et peut-être encore quantitativement. Si vous vous habillez comme tout le monde, je ne sais pas, mais nous sommes habités par des friperies, c'est-à-dire des habits déjà portés par d'autres gens, et ceci et cela, vous savez. Donc d'une manière générale, le pays devient un rejet. C'est là que tout ce qui ne marche pas ailleurs se retrouve pour être vendu. Uniquement parce que ceux qui doivent acheter ne sont pas capables de choisir et encore moins de s'adonner à la qualité. Ils n'ont pas un revenu conséquent.
Oui, honorable Combo, nous avons en direct par téléphone Dr Miakala. Parmi les services dont vous dénoncez la mauvaise qualité, vous parlez des services des soins de santé. Êtes-vous arrivé, si vous voulez, à déduire que les soins de santé ne sont pas bien dispensés?
Je vous donnerai l'exemple que j'ai vécu hier. Hier, en effet, une délégation de l'Union des consommateurs s'est rendue à l'hôpital de Kintambo. Nous avons eu la chance de rencontrer Madame Vicky, qui est responsable de cet hôpital. Et nous avons visité ce mouroir, je dis bien mouroir, plutôt qu'un hôpital. Et il y a des gens qui ont confiance dans cet hôpital. On a pratiquement assisté à la fin d'une vie devant des médecins, mais qui nous ont dit qu'ils étaient incapables de faire quoi que ce soit parce que l'hôpital est démuni.
De quoi?
De tout. Il n'y a rien. Allez un peu voir le labo, si on peut encore appeler ça un laboratoire. Allez voir le centre de réanimation. Mais il n'y a rien, il n'y a rien. Et quand vous allez voir par exemple les habits que portent les médecins, où est-ce que ces habits sont nettoyés et avec quelle eau? L'eau froide. Et quel genre de buanderie? Bref, les centres de santé de chez nous laissent à désirer.
Docteur Miakala, vous êtes en ligne avec nous. On vient d'aborder cette question de service des soins de santé avec l'honorable Georges Combo, président national de l'Union des consommateurs du Congo. Sur cette question de la qualité des soins de santé, que répondez-vous à ce constat de Monsieur Combo?
Permettez-moi tout d'abord de saluer l'honorable Georges Combo et de lui présenter mes meilleurs voeux pour l'année 2005.
Moi, je réciproque les vœux.
Je suis attentif à tout ce que l'Union des consommateurs du Congo évoque, pas seulement maintenant, mais de tout le temps, parce que je suis aussi un consommateur et je me sens concerné. Et je voudrais dire que nous parlons aujourd'hui de la reconstruction du pays. Si nous parlons de la reconstruction du pays, c'est parce que quelque part, quelque chose n'a pas marché. Le fait que l'Union des consommateurs dénonce aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui vient d'arriver. C'est la résultante de plusieurs décennies de mauvaise gestion. C'est la résultante de plusieurs décennies ou des décisions correctes, décisives, qui auraient pu nous placer devant une situation qui protège nos consommateurs, n'ont pas été prises et n'ont pas été exécutées. Et que aujourd'hui, effectivement, nous avons des situations en reconstruction. Nous sommes en train de faire un effort pour améliorer la qualité des services de santé. C'est donc dans ce sens que nous procédons à de nombreuses formations qui ont lieu au niveau de notre secteur. Et c'est pour cela que nous sommes en train de nous battre justement en ce qui concerne par exemple la disponibilité de médicaments. Nous venons de mettre au pied ce qui s'appelle la CAMESKIN, centrale d'achat, contrôler non seulement la qualité des médicaments, parce que nous saurons où nous avons acquis ces médicaments, mais nous pourrons aussi contrôler le prix de ces médicaments parce que nous savons le suivre depuis la CAMESKIN jusqu'à leur destination finale au niveau du centre de santé.
Oui, docteur, on a entendu un peu faiblement à cause de la qualité de communication. Si je vous ai bien suivi, vous dites que dans le secteur de la santé notamment, vous constatez, c'est vrai, vous ne niez pas, mais vous dites qu'on est en phase, en processus de reconstruction, et qu'en ce qui concerne le domaine de la santé, il y a en cours actuellement un programme pour rendre disponible davantage des médicaments de qualité, notamment par les structures des centrales de distribution des médicaments, et puis au niveau de prix, et cela étant une chose, mais docteur, il y a des choses qu'on déplore, c'est parfois l'accueil du personnel de santé chez certains malades, docteur.
Oui, c'est ce que je disais. Je disais donc, nous sommes dans un processus de reconstruction. Je reconnais que nous avons été dans une sorte de déliquescence. C'est la résultante donc de plusieurs années de mauvaise gouvernance. Et donc ce que nous déplorons aujourd'hui en fait vient de loin. Et il nous appartient aujourd'hui, parce que nous avons pris conscience de cela, tous ensemble, sans nous donnant la main pour redresser la situation.
Je ne devrais pas évoquer cette question avec vous, mais ça vous concerne, docteur, parce que vous êtes médecin actuellement et il y a une grève qui est en cours et que donc, au-delà du fait que même en situation normale, quand les médecins n'étaient pas en grève, les services en soins de santé étaient déjà décriés par l'Union des consommateurs du Congo, mais du fait de la grève aujourd'hui, ça s'empire, docteur.
Nous pouvons dire qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles nous avons réagi sans attendre que l'Union des consommateurs du Congo réagisse ou décrit cette situation. Nous faisons un effort dans ce sens. En ce qui concerne la grève des médecins, nous avons insisté pour que même si les revendications, qui sont les revendications des médecins, sont légitimes, et que la population ne devait pas souffrir outre mesure de ces revendications en maintenant des services minimums qui devaient rendre service à ceux qui continuent à nous faire confiance et qui ont besoin de nos services.
Docteur Miakala, on comprend que vous soyez en phase de reconstruction, de corriger certaines choses qui n'allaient pas, mais jusqu'à quand durera cette reconstruction? À quel moment d'ici là que les consommateurs des services de santé peuvent espérer bénéficier des bons services de santé?
Ce que j'étais en train de dire, c'est que la santé est une chose tellement importante qu'on ne peut pas laisser à la disposition simplement des professionnels de santé. Il nous appartient tous de nous sentir d'abord concernés comme responsables de notre propre santé et de participer justement à ce que dans la gestion de cette santé, et l'union des consommateurs, et les individus, et les groupements de personnes puissent se sentir concernés. C'est pour cela que nous avons mis en place des structures de participation depuis le niveau le plus bas. Dans chaque rue, nous parlons de relais communautaires, nous parlons de cellules d'animation communautaire qui regroupent ces relais communautaires au niveau des rues, nous parlons de comités de développement au niveau des centres de santé. Et j'invite notamment l'Union des consommateurs du Congo pour que de ses membres soient dans ces comités où effectivement le dialogue avec le personnel de santé au niveau des centres de santé est un dialogue permanent pour amener à l'amélioration des services rendus à la population. Et au niveau des zones de santé, nous avons tout ce comité de développement qui existe et pour lequel nous sommes ouverts pour que les associations aussi importantes que l'Union des consommateurs du Congo puissent participer, parce que nous pensons, quant à nous, qu'il n'appartient pas aux seuls professionnels de santé de faire en sorte que la population soit en bonne santé. C'est une affaire qui nous concerne tous. De notre part, je veux dire que la seule bonne volonté ne suffit pas. Il faut que nous ayons les moyens pour effectivement matérialiser notre bonne volonté.
Et d'où viendront ces moyens, docteur?
De nous tous, de la population en tant que consommateurs de soins, en payant ce qu'il doit, du gouvernement en tant qu'organisateur du service sanitaire, en donnant les subsides conséquents pour que les services soient rendus, des entreprises protégeant la santé de leur personnel pour que le rendement soit correct, il faut que nous tous, nous puissions mettre la main, j'allais dire, dans la poche pour que, effectivement, nous puissions bâtir un système de santé qui soit acceptable et qui nous confère la sécurité sanitaire dont nous avons besoin pour reconstruire et développer notre pays.
Voilà, docteur Mirkala, merci. Monsieur Kombo, je vais vous demander juste de répondre à une question. Docteur Mirkala invite l'Union des consommateurs à participer avec les professionnels de santé dans les structures mises en place pour discuter, partager le comment améliorer les soins de santé. Pourquoi l'Union des consommateurs n'y est pas encore? Est-ce que vous allez vous joindre aux professionnels de la santé maintenant?
Bon, je commencerai d'abord par présenter, moi aussi, au docteur...
En une minute, oui.
Lui présenter mes voeux les meilleurs, oui. Parce que je sais qu'il en a besoin. Et je connais le docteur Mirkala qui est un grand consommateur. Il voudrait bien être un bon consommateur, mais hélas, il se retrouve dans un environnement tel que, malgré ses préoccupations, il n'en peut rien. Mais nous sommes prêts, nous sommes là de toutes les façons, même si...
On est d'accord que l'Union des consommateurs va se joindre aux professionnels de santé pour améliorer ces
questions. Bien sûr, mais ne vous en faites pas, vous savez, parmi les médecins, il y a des membres effectifs de l'Union des consommateurs, même au niveau du comité directeur, parmi les médecins. Quand je vous dis que nous sommes allés hier, par exemple, à l'hôpital de Kitambo, mais on était avec des médecins,
okay. Des collègues. On a évoqué cette question, nous allons libérer docteur Mirkala, parce qu'il y a des questions qui vous concernent directement vous, monsieur Kombo.
Je dirais, au docteur, que c'est un problème de moyens, certes, mais de volonté aussi, mais aussi un problème de civisme. Parce que tout récemment encore, alors qu'on nous a offert de budget, vous savez, maintenant nous avons des budgets, par exemple la Banque mondiale et consorts.
Mais parlons du budget.
Qui vont tomber en annulation parce que, quelque part, au niveau du ministère, on refuse de signer un document. Le ministère de la Santé, hein, on refuse de signer un document. C'est seulement maintenant qu'on vient de libérer. Mais il faut faire attention avec ça. Il faut faire attention avec ça. C'est une question à la fois de volonté, mais aussi de l'amour de son pays.
On va revenir tout à l'heure. Docteur Mirkala, merci beaucoup d'avoir commenté avec nous l'aspect service des soins et des santé. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, que votre bonne volonté se réalise pour 2005, docteur.
Merci beaucoup, on vous entend.
Merci, docteur. Alors, je reviens avec vous, monsieur Kombo. Alors, des questions pertinentes des auditeurs. Et la première, c'est Edmond Kitenge qui pose cette question des Bandalunga. Je m'adresse à monsieur Kombo, dit-il. Il dit qu'il est président des consommateurs du Congo. On n'y comprend rien, écrit Edmond Kitenge. Il n'y a pas longtemps, il était président de l'UNTSA. Comment alors qu'il n'a pas pu rien faire pour les travailleurs, voudrait-il réussir ses objectifs dans le domaine des consommateurs?
Ah bon? Mais je ne sais pas s'il était travailleur à cette époque-là, parce que moi j'ai quitté l'UNTSA il y a plus de 10 ans. Et je pense que si c'était un problème à examiner en termes de bilan, c'est pas moi qui dois régler le problème, par exemple, sur le volet chômage. Mais je règle le problème en termes de qualité du travail, protection du travailleur et la politique du travail avec le gouvernement. Et je vous assure que ça s'est passé bien.
Comment comptez-vous réussir cette mission disons, les objectifs de l'Union des consommateurs congolais?
Bon, l'objectif de l'Union des consommateurs du Congo, parce que le docteur d'ailleurs l'a dit, l'Union ne date pas d'aujourd'hui, hein, nous le faisons depuis longtemps.
Oui, depuis longtemps. Soyons précis à l'endroit, au but, monsieur Kombo. Vous avez des astuces, des stratégies pour mieux réussir le combat de l'Union des consommateurs du Congo?
D'abord, qui est consommateur? Parce qu'il faut que nous sachions que c'est un problème de masse, un problème d'homme. Il faut que nous-mêmes nous sachions ce que nous voulons faire, ce que nous voulons devenir. Nous devons refuser. Au lieu de s'attaquer à des individus parce qu'on croit...
Refuser quoi?
Refuser la médiocrité, refuser le mal, refuser la saleté, refuser tout ce qui est rejeté partout ailleurs.
On a entendu tout à l'heure au marché des mamans qui se disent, mais oui, on regarde par exemple que certains produits qui nous sont proposés visiblement déjà à l'ONU, ce n'est pas de bonne qualité, mais à l'impossible de les tenir, on est obligé d'acheter.
Ben je partage parfaitement ce point de vue, mais je dis on doit alors s'attaquer. Puisqu'on voit, on est là, on est dans un marché, les choses sont étalées, les produits alimentaires sont étalés, à même le sol. Mais les gens sont obligés d'acheter puisqu'ils n'ont pas d'argent. Il y a des gens qui attendent le soir
pour aller dans ce qu'on appelle le Wenze Abitoula.
Nzombo le soir.
Hein? Nzombo le soir, c'est-à-dire les pourritures. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas de moyens pour acheter les produits de bonne qualité. Il y en a quand même, qu'on le veuille ou non. Mais malheureusement, la grande masse n'a pas accès à ces produits de bonne qualité, faute de moyens. Voilà. Alors, que doit-on faire dans la solidarité nationale?
Que doit-on faire?
Mais j'aimerais que nous répondions, nous tous, à cette question. Nous devons tous nous dresser contre cette injustice.
D'accord. Une autre question de M. Nguindou de Selembao. L'Union des consommateurs ne fait que dénoncer pour certains faits. Pourquoi ne pas porter plainte contre certaines entreprises ou organisations pour des faits précis?
C'est d'ailleurs c'est ce que nous proposons de faire, parce qu'au sein de l'Union des consommateurs, nous avons aussi une branche juridique. Et aujourd'hui, nous sommes prêts à ester en justice. C'est d'ailleurs là le corps de notre communiqué. Parce que des entreprises comme la Régie des Eaux, comme la SNEL, toutes ces entreprises qui tuent des gens à cause de la mauvaise qualité de leurs produits.
Eau et électricité.
Oui, eau et électricité, par exemple. Parce qu'il n'y a pas que ça. Le marché, quand vous êtes là devant des pourritures, quand vous voyez les importations, les grandes alimentations ici qui gardent des produits périmés, hein, les grandes pharmacies, les grands ensembles, tout ça, nous allons devoir essayer de voir ensemble avec nos membres.
À quand la première plainte? À quand la première plainte vraiment introduite au niveau des instances judiciaires?
A une personnalité juridique.
Oui.
C'est-à-dire qu'elle peut. Mais oui. Rester en justice.
Mais quand?
Mais nous le ferons au début de l'année prochaine.
Merci, on sera au rendez-vous. Monsieur Abraham nous a appelé du Kinshasa. Il nous informe qu'il a fait un document sur les denrées alimentaires africaines. C'est la première fois qu'il entend parler de l'Union des consommateurs du Congo. Il faut commencer à revoir tout ce qui concerne la sécurité alimentaire. Il faut aller au marché, voir comment les produits alimentaires sont de mauvaise qualité. On l'a remarqué. Il y a un problème, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas votre existence.
Eh bien, cela veut dire que beaucoup de gens ne vivent pas. Parce que l'Union des consommateurs n'est pas l'affaire d'un individu. Nous existons depuis longtemps, très très longtemps.
On a l'impression que vous n'avez pas cette action concrète sur terrain. Par exemple, cette plainte qu'on attend pour l'année prochaine, s'il y en avait suffisamment, les gens auraient su que vous existez et vous auraient même donné beaucoup d'informations.
Ah bon, je voudrais me rappeler si vous étiez avec moi quand nous défilions braver la Régie des Eaux, la toute puissante Régie des Eaux à l'époque. C'est pas si vous étiez avec moi quand nous interdisions l'aéroport de Ndolo lorsqu'il y a eu ce crash.
À l'intérieur du pays.
L'intérieur du pays, vous avez tout ça.
Parce que le problème, Aleli de Bounia demande pourquoi l'Union des consommateurs ne s'étend pas dans toute la République.
Ah, mais s'il n'y a pas l'Union des consommateurs à Bounia, c'est que lui, il ne veut pas se faire consommateur. Parce que l'union des consommateurs, ça veut dire quoi? C'est l'union de ceux qui consomment de l'air, qui consomment de la pollution, donc ils consomment la nourriture, les habits, ils consomment. Mais lui là, lui qui attend du ciel qu'on l'organise, il doit commencer par s'organiser, par prendre conscience de sa souffrance, pour qu'ils se mettent ensemble. L'union des consommateurs n'est pas l'œuvre d'un individu, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Les gens s'organisent, se mettent ensemble et disent, nous allons maintenant lutter contre ce qui n'est pas propre à la consommation.
Bien, merci. Honorable Georges Kombo Ntonga Boke, président national de l'Union des consommateurs du Congo, député et parlementaire aussi. Donc, on prend rendez-vous pour 2005 pour voir la première plainte parce que vous avez la personnalité juridique. Je vous souhaite bonne année 2005 et plein succès dans la réalisation de vos objectifs.
Je vous remercie, je vous réciproque les vœux et j'espère que vous serez avec nous en tant que consommateur.
Il y en a qui consomment l'information déjà parce que c'est un produit, c'est un service aussi.
C'est en sorte que ce soit de bonne qualité.
J'espère qu'on l'a fait. Bien, au Képi Action, nous continuons à faire la ronde des villes de la République démocratique du Congo. Nous allons nous rendre dans une autre ville, chez nous, à l'Est principalement. C'est pour constater qu'il y a une donnée qui est importante dans l'évaluation de la croissance économique. Lorsque l'Union des consommateurs, par exemple, constate que beaucoup de produits ne sont pas de bonne qualité, la majorité, ils se sont basés sur un certain nombre d'indicateurs et l'ensemble de tout ceci donne ce qu'on appelle des chiffres. Et les chiffres, lorsqu'on les collecte, lorsqu'on les traite, on les analyse, on les met à disposition des gens, parfois il y a des termes plus génériques qu'on utilise, que vous avez déjà entendu, les statistiques. C'est-à-dire les statistiques permettent d'évaluer le niveau de développement d'une communauté. La classification, par exemple, des pays en fonction de leur croissance se réalise grâce à des données chiffrées fournies par les États. Nous n'avons pas la prétention, encore moins l'intention, de faire un cours des statistiques dans ce magazine, mais ce qui nous intéresse, c'est d'abord, quelle est l'importance des statistiques? Comment les collecte-t-on? Comment les utilise-t-on? On en parle avec notre confrère Michel Thirimoami depuis Bukavu. Michel, bonjour.
Bonjour Walter.
Michel Thirimoami, vous nous parlez donc en direct de nos studios de Bukavu. Vous avez fait l'état de la question de l'emploi, l'utilisation si vous voulez, des données statistiques dans les services publics. Qu'est-ce qui vous a particulièrement intéressé, Michel Thirimoami?
Eh bien, Walter, j'ai surtout abordé l'aspect rôle des données statistiques et leur récolte par les services spécialisés. Avec les agents de l'inspection provinciale de la santé, par exemple, ceux de la division du plan et d'ailleurs, nous avons pu ensemble examiner l'état de la question de la place et de l'emploi des statistiques. Le 18 novembre notamment, le 18 novembre dernier, a été célébrée la journée africaine des statistiques, ce qui montre l'importance qui peut être accordée à ces domaines. Alors, nous commençons par le domaine de la santé où l'usage des statistiques, leur traitement et leur envoi aux services nationaux spécialisés sont souvent manifestes. Nous avons rencontré un jeune statisticien à l'inspection provinciale de la santé qui œuvre dans le bureau 4. Il s'agit de M. Francis Mouloumé qui nous fait l'état de l'existence d'une structure dans ce sens. Écoutons-le.
Au niveau de l'inspection de la santé, surtout au niveau du quatrième bureau, il existe une cellule statistique en fait qui est chargée de centraliser toutes les données en rapport avec les maladies à surveiller au niveau de la province. Les données en fait nous viennent des zones de santé qui compilent aussi les données de chaque centre de santé et hôpital. Et ces données-là nous sont envoyées par un formulaire bien conçu. Nous avons un logiciel bien adapté dans lequel nous mettons ces données et nous les traitons sur ordinateur pour en sortir des rapports qu'on envoie au niveau national. Maintenant, au niveau du cinquième bureau chargé des soins de santé primaire, il existe aussi une cellule qui s'appelle SNIS, SNIS qui signifie Système National d'Information Sanitaire, et dans lequel nous recevons aussi des rapports mensuels des zones de santé qui contiennent encore beaucoup plus d'informations, non seulement sur les épidémies, mais sur le fonctionnement normal de la zone de santé. Ces données sont aussi compilées au niveau du cinquième bureau, et informatisées et envoyées au niveau national.
Voilà, on vient d'entendre Francis Mouloumé. Dites-nous, Michel Thirimoami, les statistiques ont-elles la même importance dans les autres domaines, au niveau des Bukavu, aussi bien que dans le domaine de la santé? Et qu'est-ce que vous pouvez en déduire de la visite effectuée dans les autres services?
Eh bien, Walter, l'état de la division provinciale du plan où nous avons été, là, on est très conscient du rôle que jouent les statistiques dans les efforts de développement. Pas de planification sans recours à la statistique, nous a expliqué un interlocuteur, le chef de bureau de services généraux à la division provinciale du plan, M. Sébastien Moudama, que je vous propose d'écouter aussi.
Les statistiques constituent l'outil de base, l'outil de travail même d'un service comme le nôtre. Parce qu'en fait, la mission d'information dévolue au ministère du plan et à ses divisions en province est telle qu'on doit rassembler un certain nombre d'éléments pouvant renseigner sur la situation socio-économique de la province. Les éléments-là passent entre autres par la collecte de données statistiques, par leur analyse et même leur interprétation.
Mais voilà, on parle analyse, interprétation, mais Michel, dites-nous, lorsqu'on a collecté des données statistiques, qu'est-ce qu'on en fait après les avoir traitées?
De l'avis de mes interlocuteurs, la destination des données va de soi. À la division provinciale de l'intérieur, par exemple, on nous a dit qu'il existe un bureau des données démographiques et statistiques, mais qui ne fonctionne pratiquement pas. Avec le temps qui court et où l'on parle des échéances électorales, on a du mal à y croire parce qu'on peut se poser la question d'où viendront les données nécessaires pour la détermination des circonscriptions électorales. Ceci dit, disons que le domaine de la santé, lui, met l'accent sur les données internes collectées dans les structures de base pour les centraliser ensuite, les interpréter par exemple à des fins utiles notamment dans la prévention épidémiologique. Notre interlocuteur de tout de suite là, Francis Mouloumé, explique encore.
Le fonctionnement du quatrième bureau lui-même dépend en fait de ces statistiques, pour autant que nous sommes chargés de riposter contre les maladies, c'est ça la surveillance épidémiologique. Et pour riposter contre les maladies, il faut connaître à peu près statistiquement quand est-ce qu'on peut avoir telle ou telle maladie et prévoir alors comment on peut éviter cette maladie-là. Et donc, les statistiques jouent un grand rôle au niveau de la santé, même au niveau national, au niveau même de l'inspection de la santé, ça aide énormément pour la conception de beaucoup de projets sur base des données qui existent.
Voilà, au moins un domaine dans lequel les statistiques sont régulièrement et constamment utilisées et consommées, si vous voulez. Michel Chirimouami, le problème d'interprétation des données ne dépend-il pas de la qualité des données au départ? Parce que si on a mal collecté les données, évidemment l'interprétation sera en fonction de ça. Et quand on part déjà des fausses prémices, la conclusion n'est pas toujours vraie et fausse, il faut le dire clairement. Est-ce qu'il n'arrive pas que les données soient de qualité discutable? Qu'a-t-on comme garantie pour la fiabilité des statistiques, Michel Chirimouami? Parce que vous avez rencontré des gens qui manipulent les chiffres.
Voilà, Walter, oui, c'est vrai. À la division du plan avec nos interlocuteurs, on reconnaît les rôles des statistiques, mais on ne tarde pas à comprendre que le rôle des données statistiques est manifeste, si pas stratégique. Mais souvent, dit-on, la question des fiabilités se pose. Écoutez, le chef du bureau de services généraux, M. Sébastien Dama, encore, mettre le doigt sur la question.
Effectivement, les données récoltées en seconde main comme ça, et surtout avec les difficultés en équipement qu'on connaît dans les services publics de l'État, un problème de fiabilité se pose parfois au niveau de ces données. Et il n'y a que dans le secteur agricole où il existe quand même une commission d'harmonisation et d'arbitrage des données statistiques qui permet d'harmoniser les données, d'uniformiser les données de ce secteur-là annuellement. Mais dans d'autres secteurs, cela n'est pas fait, donc ces données de seconde main, naturellement, posent des problèmes de fiabilité.
Voilà un deuxième service qu'on vient de noter après le service de la santé, où les chiffres et les statistiques sont bien utilisés. Dans le domaine agricole aussi, on vient de l'apprendre, parole de Sébastien Moudahama, de la division chef du bureau des services généraux, la division du plan, c'est ce que nous a dit tout à l'heure. Michel, cette question en appelle une autre. Parce qu'on le constate, les services publics de notre pays souffrent d'un problème sérieux d'équipement. Est-ce qu'il ne faudra pas pouvoir chercher les moyens d'accès à ces données pour inférer leur fiabilité, surtout lorsqu'on apprend depuis plusieurs mois que l'État congolais est en train de se remettre sur les rails?
Oui, Walter, le domaine des statistiques n'a pas échappé à la crise qui sévit dans notre pays et surtout dans les services de l'État. C'est l'avis du directeur intérimaire de l'Institut national des statistiques, bureau de Bukavu. Selon M. Deo Kajemba, notre invité, qui nous fera l'état des lieux de son service, l'Institut national des statistiques existe à Bukavu. Le bureau a été récemment réhabilité grâce à l'appui de l'UNICEF, mais il éprouve de sérieux problèmes de moyens et fonds de démarrage. Et pour notre interlocuteur de tout à l'heure de la division du plan, le degré de fiabilité des données dans leur récolte et traitement dépend d'ailleurs des moyens dont on dispose. On l'écoute.
L'accès à des données statistiques fiables requiert des moyens énormes, une bureautique moderne, des moyens logistiques, des moyens financiers même, pourquoi pas même des moyens même matériels pour bien asseoir ces données-là. Généralement, ces moyens ne sont pas réunis actuellement.
Et voilà, on va voir un peu plus de détails avec Deo Kajemba tout à l'heure, aussitôt après Michel. Une dernière question, est-ce qu'on doit souhaiter que les choses doivent rester à ce niveau où on constate que les statistiques ne sont pas assez utilisées, que les bureaux à cette fin ne sont pas bien équipés?
Bon, le service des statistiques a fait ses preuves dans le temps dans notre pays, tel que le reconnaissent bon nombre de fonctionnaires de l'État. Mais la période qui a suivi la prospérité des années 70 n'a fait que déchanter et enfoncer les services publics dans la crise dont ils ne sont pas encore sortis aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, Walter, si l'on veut sortir du marasme social et économique, il faudrait se doter de méthodes modernes et d'équipements adéquats pour l'essor et le démarrage socio-économique. La statistique descriptive ou inférentielle reste en tout cas un outil incontournable pour la compréhension des situations et des faits présents ou à venir. La situation à RDC, en tout cas, est encore telle que ce domaine est relégué au second plan.
Michel Tiromami, merci beaucoup et bonne année 2005 à vous et à tous ceux qui nous suivent à Bukavu et surtout particulièrement aujourd'hui à ceux qui travaillent dans le domaine des statistiques.
Merci Walter et bonne année à tous nos auditeurs.
Okapi, action 081 89 068 90. Okapi.
Voilà, nous allons avoir quelques détails avec notre invité, monsieur Deo Kajemba. Deo Kajemba, bonjour. Non, mais il doit être en direct dans nos studios de Bukavu qu'on va avoir tout à l'heure. Deo Kajemba est directeur intérimaire à la direction provinciale de l'Institut national des statistiques province du Sud Kivu. Joli Melivoto et tous les amis, Deo Kajemba, il est en studio à Bukavu. Merci, on va l'avoir tout à l'heure dans quelques instants. Alors, nous étions en train de vous parler tout à l'heure de l'importance des chiffres, des statistiques dans le développement et la croissance des nations. C'est assez important. Le constat que l'on fait, c'est que malheureusement, tous ces chiffres ne sont pas assez utilisés. Deo Kajemba, c'est possible de les joindre. Monsieur Deo, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur intérimaire à la direction provinciale de l'Institut national des statistiques province du Sud Kivu. On constate quand même que beaucoup des services publics n'ont pas des statistiques au niveau des Bukavu.
Oui, exact. Beaucoup de services publics n'ont pas de services de statistiques. Et actuellement, au niveau de l'Institut national de la statistique, bureau de Bukavu, nous sommes en train de faire un inventaire de tous les services producteurs et utilisateurs des statistiques démographiques, sociales et économiques pour pouvoir ensemble avec eux voir dans quelle mesure nous pouvons réorganiser la collecte, l'analyse et le traitement des données socio-démographiques et économiques au niveau de la province.
Ben oui, ceux qui nous écoutent pourraient s'interroger, pour savoir pourquoi seulement maintenant vous cherchez à réorganiser cela au lieu de l'avoir fait plus tôt, plus avant, parce que les chiffres, les statistiques sont quand même très importants pour la croissance des nations.
Bon, l'Institut national de la statistique existe depuis longtemps et dans les années avant les années 90, l'Institut a très bien fonctionné. Vous vous rappellerez d'ailleurs du recensement général de la population et de l'habitat de 1984, qui reste d'ailleurs le seul recensement fiable que la République démocratique du Congo a connu. Et c'était avec l'Institut national de la statistique, mais avec toute la vague de troubles que le pays a connu depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, les services se trouve dans un état de délabrement. Nous avons manqué des moyens de fonctionnement, ce qui a fait que aujourd'hui tout est à reprendre.
Tout est à reprendre, il faut le faire vite parce qu'on va vers les échéances électorales et on aura besoin de votre expertise. Mais dites-nous, monsieur Deo Kajemba, quelle est l'importance des statistiques dans le développement?
Eh bien, on ne peut pas prétendre arriver à un développement sans se servir des données statistiques parce que tous les États modernes utilisent la planification pour le développement et quand on parle de planification, on voit directement les données statistiques. En fait, planifier signifie faire un état des lieux de la situation présente pour mieux envisager la situation future. Et tout cela ne peut se faire sans les données chiffrées. Et d'ailleurs, c'est la raison d'être de l'Institut national de la statistique qui a pour mission de rassembler et d'analyser pour les comptes du gouvernement les informations statistiques nécessaires à la politique démographique, économique et sociale du pays. Bon, d'abord, il y a ses capacités intellectuelles, il doit être donc formé dans les domaines, mais comme outil de travail, il doit avoir tous les éléments nécessaires, entre autres, les équipements modernes pour l'analyse des données statistiques. Je vois ici l'outil informatique avec tous les logiciels adaptés à l'analyse statistique des données. Et pour être en mesure de récolter les données, il faut avoir du matériel nécessaire. Je vois ici le matériel roulant pouvant lui permettre de se déplacer par-ci, par-là pour récolter les informations nécessaires pour son travail.
Lorsque l'on connaît l'état des voies de communication dans le pays, est-ce que vous êtes en mesure de vous déplacer partout où vous voulez aller collecter les données?
Effectivement, nous sommes paralysés par le manque de moyens. Actuellement, nous ne sommes pas en mesure de nous déplacer. Même nos services ne sont pas en mesure de faire ce travail, ne fût-ce qu'au niveau de la ville de Bukavu, faute de moyens.
Je rappelle aux auditeurs que vous êtes directeur intérimaire à la direction provinciale de l'Institut national des statistiques province du Sud Kivu. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de bonne année 2005. Donc, si vous regardez autour de vous, vous allez peut-être tomber sur quelqu'un qui a un handicap physique. Cette personne marche difficilement et malheureusement dans la société telle qu'on vit actuellement, il y a des personnes qui, lorsqu'elles voient une personne avec handicap physique, du coup, on dit « Oh, cette personne, elle est inutile, elle ne peut rien faire. » C'est en fonction de certaines réactions comme celle-là que Okapi Action a cherché à aller à la rencontre de personnes vivant avec handicap physique. Et nous avons été agréablement surpris de constater que, oui, handicap physique, ils en ont, mais une capacité intellectuelle normale est parfois supérieure à celle des personnes qui sont apparemment aptes physiquement. Okapi Action va vous faire découvrir quelques œuvres des personnes vivant avec handicap physique. Voici le récit de Sylvie Sona.
C'est une fraiseuse qui sert à dégrossir, faites attention, qui sert à dégrossir un peu le bois, le plastique. Donc c'est une machine qui nous aide à rectifier pour certaines choses. Tous les appareils que nous faisons ici, c'est ça. Donc, ce jet, c'est pour nous aider à pouvoir couper le bois. Et c'est tout.
Ces explications nous ont été données par le chef de l'unité orthopédique du centre de rééducation pour handicapés physiques de Kinshasa, situé sur l'avenue des Huileries. En entrant dans ce centre, on est impressionné par une chose. Le travail est assuré par les personnes avec handicap, que ce soit au restaurant ou dans l'unité orthopédique. Ce centre existe depuis une quarantaine d'années. Son rôle principal est d'aider les personnes avec handicap à se prendre en charge, et ce, en leur offrant du travail. L'un d'eux, Fernand Mafuala, y travaille depuis plus de 15 ans. Il nous raconte d'ailleurs le cursus qu'il a suivi avant de travailler dans ce centre.
Moi, je l'ai appris. D'abord, au départ, je l'ai fait au centre Kikesa, à Livoulou, dans la commune de Lemba, et après je suis allé faire ma perfection à Lomé, au Togo, où est implantée une école allemande de techniciens orthopédistes, orthoprothésistes. Et là, j'ai appris aussi avec des hommes valides. Après avoir terminé, je suis revenu au pays pour servir mon pays.
Mais ce travail est pénible, nous ont-ils renseigné. Il exige une bonne condition physique et beaucoup d'intelligence. À la question de savoir pourquoi il a choisi ce métier, un monsieur nous a répondu ceci.
Ce qui m'a incité, c'est d'abord ma condition physique. Je suis moi-même porteur de déficience physique. J'ai trouvé que je serais mieux que je sois dans la boîte pour que je n'aie pas de problème de fabrication de mon appareil orthopédique, la prothèse que je porte.
Qu'est-ce que vous faites exactement ?
Nous sommes là en train de fabriquer des appareils orthopédiques tels que des prothèses, des orthèses, des corsets, ainsi que des gommes. C'est un métier un peu dur, un peu difficile, puisque ça exige de la force physique ainsi qu'intellectuelle. Vraiment, c'est un travail qui est un peu dur là.
Après cet entretien, nous nous sommes rendus dans la cordonnerie et nous avons rencontré un monsieur. Il avait en main quelque chose d'assez étrange.
Oyo, ils allaient. Pierre-Quin Varis.
Merci.
Pierre-Quin Varis, les alliés, Montoyo, le colonel, moyen, les alliés à quoi? Donc, moyen à la ta chaussure normale, les alliés. Le colonel, les alliés déformés. La ligne, le colonel, les alliés déformés, il faut tout ça la sapato ya kosala sapato na ya tokosala ya ngone to ko adapter na loko na ya to mona ni modele za ni to adapter ya ho après to monter chaussure to pesi na moto ko ala ko ye a ko ko ke ko somba chaussure na ville te chaussure na il faut ba sala kosala après ala tia.
Vous l'avez compris, ce cordonnier est en train de fabriquer une chaussure pour quelqu'un qui a un pied équin, c'est-à-dire qui a une déformation du pied qui bloque en extension vers le bas. Bien que ce centre n'a pas pour vocation la formation, il assure tout de même un recyclage gratuit pour des jeunes gens à court d'emploi. Le chef de l'unité orthopédique de ce centre lance à cet effet un appel aux parents qui ne scolarisent pas leurs enfants parce qu'ils portent en eux un handicap.
La personne vivant avec handicap, c'est une personne comme toute autre. C'est-à-dire que les parents qui ont des enfants vivant avec handicap doivent faire un effort pour les amener à l'école, pour que ces enfants apprennent à faire quelque chose. Non pas seulement des petits travaux, mais plutôt des travaux intellectuels, tous travaux que le niveau intellectuel de l'enfant lui permettra de faire tout ce qu'il voudra dans la vie. C'est pour cela que nous demandons aux parents d'amener les enfants à l'école. Si ce sont des écoles spécialisées, qui les amène là-bas? Parce que ces enfants, on aura besoin d'eux. Ils seront utiles pour la société. Donc, nous demandons vraiment aux parents de ne pas négliger ces enfants, de les amener quelque part, qu'ils apprennent quelque chose, qu'ils sachent faire quelque chose, et ils seront indépendants. À ce moment-là, il y aura moins de mendicité dans la vie.
Le travail ennoblit l'homme, dit-on. Ce point de vue est également celui de toutes les personnes avec handicap que nous avons rencontrées au centre de rééducation pour handicapés physiques de Huillery.
Nous allons recevoir un invité qui est aussi une personne avec handicap physique. Cet invité se trouve actuellement à Goma. C'est l'histoire d'une auditrice de Radio Okapi qui écrivit un certain 14 décembre 2004 à 13h01 un courrier à Okapi Action. Elle avait écrit à action@radiokapi.net. Son nom, c'est Hortense Maliro. Elle est présidente de l'Association pour l'intégration sociale de handicapés physiques. Elle sera notre invitée. Dans quelques instants, on propose cette musique à l'intention de tous ceux qui nous suivent maintenant, et particulièrement aux personnes vivant avec handicap physique qui vont se décider d'aller apprendre un métier dans les centres qui leur sont dédiés. Donc, et puis Action, cette chanson avait un rythme particulier, la nouvelle vague des musiques du genre hip-hop, R&B, comme on dit actuellement. Je vous le disais tout à l'heure, nous allons recevoir notre invité à présent. Il s'agit de Mademoiselle Hortense Maliro. Mademoiselle Hortense Maliro vit à Goma. Elle est présidente de l'Association pour l'intégration sociale de handicapés physiques. Hortense Maliro, bonjour.
Bonjour, Asher.
Voilà, votre vœu s'est réalisé. Vous aviez souhaité d'intervenir dans ce magazine depuis le 14 décembre. Et aujourd'hui, nous sommes le 29 décembre, 10h21 à Kinshasa, 11h21 à Goma. Vous êtes en direct sur Radio Okapi. Bonne année, Hortense.
Merci, pareillement.
Ben voilà, nous parlons plutôt des activités que vous menez à Goma. Vous êtes présidente de l'Association pour l'intégration sociale de handicapés physiques. Pourquoi est-ce que vous avez créé cette association?
Bon, en fait, on a créé cette association puisque on a voulu montrer à tout le monde, à toute la communauté, que la personne handicapée a une place aussi dans la société. Elle doit se valoriser, se donner la valeur. C'est ainsi que nous avons conçu l'idée de créer cette association, voir dans quel angle nous pouvons assister les personnes avec handicap, puisque nous avons examiné que la plupart des handicapés proviennent de familles vraiment démunies, alors qui les empêchent même de perfectionner même leur talent, même leur niveau intellectuel. Alors, nous avons conçu l'idée de créer cette association, voir comment nous allons assister ces enfants, à les scolariser, donc faire l'école primaire et secondaire, voir dans quelle langue aussi les aider dans le niveau académique, quoi.
Dites-nous.
Ça ne suffit pas de faire que le métier.
Oui.
Faut aller plus loin.
Il faut aller plus loin. Dites-nous, Hortense Maliro Kavo, combien de personnes avec handicap physique bénéficient des actions de votre ONG?
Bon, jusque là, ils ne sont que 4, puisque c'est une ONG qui vient à peine de commencer, il y a quelques mois.
Mm-hmm.
Et nous demandons une assistance pour que nous soyons capables de faire quelque chose de palpable, puisque nous avons fait des statistiques, on voit dans la ville de Goma, les enfants sont nombreux, très nombreux, des 0, donc des 5 à 15 ans, ils sont très nombreux, qui n'étudient pas. Et il ne suffit pas de payer seulement pour eux le Minerval, il faut voir comment acheter leurs orthèses pour leur permettre de se rendre à l'école. Alors, à notre niveau, nous nous sommes limités d'abord à 4. Ils sont là, ils étudient, et on suit leur évolution et tout, que c'est, ils s'adaptent facilement, ils s'intègrent.
Est-ce que ils ont quel âge, ces quatre bénéficiaires, ces quatre premiers bénéficiaires de vos actions? C'est des garçons, c'est des filles ou c'est les deux confondus?
Il y a deux filles et il y a aussi des garçons.
Mmh. Mais alors, ils ont quel âge à peu près?
Il y a deux qui ont 6 ans, donc ils font la première primaire. Il y a aussi deux. Il y a l'un qui a 9 ans et l'autre qui a 8, donc 4e et 5e primaire.
Et d'où viennent les fonds qui vous permettent à vous, Hortense Kavo, Maliro et vos membres, à scolariser ces 4 premiers bénéficiaires?
Oui, comme je viens de le dire, nous, c'est juste des petites cotisations des membres fondateurs qui ont conçu cette idée et c'est pourquoi nous demandons une assistance, puisque nous avons vu que c'est un problème sérieux dans la ville de Goma, voir comment les enfants handicapés sont délaissés, puisque c'est au bas âge qu'il faut s'intéresser plus à une personne handicapée.
Mm-hmm.
Parce que si vous les laissez, donc entre les 0 à 6 ans, ils se sentent aussi vraiment marginalisés et c'est un échec pour lui.
Mmh.
Alors si on leur donnait la possibilité de lire et écrire, bien qu'ils vont faire, ils seront orientés dans les métiers, mais qu'ils savent d'abord lire et écrire, c'est quelque chose de meilleur.
Mmh. Mais Hortense, parlons de vous. Vous, apparemment, vous avez eu de la chance d'être encadré de le bas âge, parce que vous vous occupez des autres aussi.
Oui, justement, c'est pourquoi même, c'est un rêve qui vient à peine de se réaliser, puisque je vis comme j'ai été handicapée depuis le bas âge, je pense que c'est 4 ans ou 5 comme ça. Et heureusement, mais ma famille était, avait les moyens, avait la possibilité de me scolariser. Ils n'ont pas, la famille n'a pas vu que le fait d'avoir une fille handicapée, que c'est un échec pour elle. Alors, j'ai commencé, j'ai été d'abord au centre pour handicapés, pour la réadaptation. On m'a donné des orthèses que j'utilise et j'ai grandi. Maintenant, ça va parce que j'ai fait l'université et je m'intègre. Je me sens bien en communauté.
Qu'est-ce que vous faites comme formation à l'université?
Oui, je fais l'économie monétaire et bancaire. Très bien, licence maintenant. Je pense que l'année prochaine, je vais finir.
Donc, économie monétaire et bancaire, c'est à l'UNPGL ou au centre universitaire de Goma? Bon,
Non, c'est pas à Goma. J'étudie au Rwanda.
Ah, ok.
C'est là qu'il y a la faculté.
D'accord, mais on note que vous êtes déjà en première année de licence, que vous allez bientôt finir votre cursus universitaire. Qu'est-ce que vous comptez faire finalement après?
Je compte d'abord finir avoir mon bac. Après, je demande une assistance pour que j'aille faire l'économie de santé et puis me mettre assise et écrire, publier les livres. Et entre-temps, il y aura l'association qui va continuer à aider les autres pour arriver à un stade.
D'accord. Hortense Caveau, dites-nous, il y a des gens qui ont un handicap physique, comme vous, qui sont totalement découragés, qui se disent que, bon, de toute façon, on nous trouve inutile et qui développent une certaine violence, ou vraiment qui se découragent, qui n'ont plus goût à la vie. Qu'est-ce que vous, qui avez le même problème et qui avez des projets, qui êtes en train d'étudier, dites-vous à ces personnes-là?
Ouais, ils sont vraiment nombreux. Je leur demande de prendre conscience, de se dire qu'ils ont une valeur, ils sont aussi utiles dans la société. Et il y a beaucoup de gens qui pensent à eux et voir comment leur donner la chance de vivre. Et nous allons nous mettre ensemble et voir comment les aider. Mais il ne faudrait pas qu'ils restent dans le désespoir.
Qu'est-ce qui vous a donné, vous, espoir? Qu'est-ce qui vous a permis, vous, Hortense, à ne pas sombrer dans le désespoir?
Bon, d'abord, je peux dire, ce qui m'a donné d'abord l'espoir, le courage, c'est mes parents, puisque tout doit commencer par les parents. C'est depuis les bases. Ils m'ont forcé d'étudier. Bien qu'il y a, bon, la personne handicapée se révolte, hein. Puisqu'il y a des, tu vois, quand on est enfant, les enfants, oh, qu'il est mal, et puis tu vois, ça décourage. Mais quand il y a quelqu'un derrière pour t'encourager, pour essayer de dire que non, tu es aussi enfant comme tous les autres, tu dois émerger dans ce sens-là. C'est ainsi que je finis les études primaires, bien que c'était difficile, mais je finis quand même. Et une chose qui est un peu importante, c'est que j'avais souhaité prendre une chaise roulante dès le bas âge. Mmh. Mais les parents refusaient. Peut-être ils ont senti que si je prenais la chaise roulante, je serais un peu limitée, puisque ça rend plus dépendant. Mmh. Alors, ils m'ont aidé à acheter mes orthèses, puisque c'est cher, mais ils s'en sortent quand même.
Quelle volonté. On note chez vous cette détermination à aller de l'avant. Vous voulez être gouverneur de la Banque Centrale du Congo dans quelques années?
C'est vrai, vraiment. Un jour, il faudrait que je sois gouverneur de la Banque Centrale.
Hortense, je ne sais pas, sauf indiscrétion, quel âge avez-vous?
J'ai 25 ans.
Ben voilà, il a 25 ans, il est en première année de licence en économie bancaire. L'année prochaine, elle devrait avoir décroché sa licence. Elle encadre d'autres personnes, pour l'instant 4 enfants frappés de handicap physique. Et son rêve, c'est qu'un jour, Maliro Hortense Caveau devienne gouverneur de la Banque Centrale. Qu'est-ce que je puis vous dire maintenant? Parce que nous sommes à... Je souhaite que vos voeux se réalisent, que le rêve que vous avez pour d'autres enfants frappé avec handicap physique puisse être une réalité, que vous leur redonniez la chance que vos parents et vos proches vous ont donnée à vous, et que votre rêve, en tant que personne individuelle, si vous voulez, de devenir grand responsable dans ce pays, dans le domaine de l'économie et des banques, puisse se réaliser quand Dieu le voudra.
Merci beaucoup, Alter.
La cité de Bounia ne dispose d'aucun dépôt pharmaceutique. La plupart des structures sanitaires ont du mal à s'approvisionner en médicaments. Néanmoins, elles sont appuyées par certaines ONG telles que MEDER, Malteser et Memisa Belgique. Les produits essentiels qu'ils reçoivent ne répondent pas, malheureusement, à la forte demande de la population. En vue de s'approvisionner en produits des spécialités, quelques habitants de Bounia recourent au marché local, mais les produits sont presque introuvables et coûtent énormément cher. Nous allons évoquer la question avec notre consoeur Godlive Omondo. Godé, bonjour.
Bonjour Walter.
Dites-nous, lorsque vous nous dites, vous nous informez qu'il y a des produits de spécialité qui sont presque introuvables ou coûtent énormément cher, et pour les produits de nécessité habituelle, comment les structures sanitaires de Bounia s'approvisionnent-elles?
Oui, Walter, dans tout l'Ituri, il y a 3 ONG internationales qui appuient les différentes zones de santé du district. Il y a l'ONG MEDER qui est opérationnelle à Bounia et à Mambasa et aussi à Irumu, et la partie aussi, une grande partie de Djougou également. Au nord de cette ville, au nord de Bounia, ce sont les ONG maltaisères et Memissa Belgique qui apportent leur assistance médicale aux formations sanitaires locales. Quant à l'ONG MEDER qui intervient sur place à Bounia, elle est donc opérationnelle depuis 1997 dans le secteur de la santé. Elle disponibilise donc les médicaments dans des structures sanitaires. Elle réhabilite aussi quelques centres de santé et intervient dans les domaines psychosocial des personnes traumatisées par les affres de la guerre.
Godlive, Omondos, est-ce qu'on voudrait, après avoir eu toutes ces informations, il existe quand même des dépôts pharmaceutiques à Bounia ou en dehors de ces ONG où les populations ou les officines peuvent s'approvisionner?
Ces ONG plutôt apportent le produit essentiel aux structures sanitaires de la place. Et cela ne comble pas tous les besoins des hôpitaux et aussi des centres de santé, du moins ceux qui sont reconnus par l'inspection, car ce sont ces centres-là qui sont concernés par ces dons en médicaments. En vue donc de pallier la carence en produits des spécialités, il y a la population qui recourt au marché local, mais malheureusement, Walter, ces produits sont soit introuvables, soit encore vendus à un coût élevé, ce qui rend difficile leurs approvisionnements au moment utile.
Mais venons-en alors à la présence ou pas des dépôts pharmaceutiques à Bounia. Est-ce qu'il y en a, Godlive Omondo?
Oui, Walter, il n'y a aucun dépôt pharmaceutique à Bounia où on peut acheter des médicaments et il n'y a même pas une seule pharmacie digne de ces noms. Les quelques échoppes de médicaments qu'on y trouve sont tenus par des commerçants et elles ne sont même pas placées sous la supervision d'un pharmacien attitré comme le recommande la législation médicale en vigueur dans le pays. Et ne parlons même pas des conditions dans lesquelles ces médicaments sont conservés. Vraiment, Walter, en dehors des normes requises, c'est vraiment en dehors des normes requises et les produits sont donc étalés dans des petits kiosques et c'est non climatisé même et parfois sous le soleil.
Mais dans ces conditions-là, comment fait-on à Bounia pour se faire soigner?
Et dans ces structures sanitaires, les soins ne coûtent presque rien, mais le problème qui se pose, c'est au niveau des produits de spécialité. Ces produits sont difficiles à trouver et sont chers, comme je le disais tantôt. Si on peut suivre les témoignages d'un habitant de Bounia.
Bon, les médicaments utilisés couramment, ce sont les médicaments de première nécessité. Il n'y a pas souvent de spécialité. Mais à cause de la guerre aussi, nous avons perdu des spécialités que nous avions ici à Bounia. Et puis, si votre maladie nécessite le médicament de spécialité, carrément vous allez chercher ça en ville ou dans des pharmacies du marché.
Et vous en trouvez sans problème?
C'est très difficile. Il y en a d'autres qui sont trouvables et d'autres ne sont pas trouvables. Mais ce que nous trouvons difficile est que, avec le produit de première nécessité qu'on donne, il y a d'autres maladies qui résistent contre ces produits-là. C'est ça. Et par conséquent, ils ne seront pas à mesure de supporter les coûts de cette maladie. Mais les spécialités sont appelées des produits d'Europe parce qu'ils sont efficaces contre les maladies.
Godlive Omondo, pourquoi ces produits pharmaceutiques sont-ils introuvables alors que les besoins se font toujours sentir? Ceux qui tiennent ces pharmacies à Bounia, quel type de produits ramènent-ils pour vendre aux habitants de Bounia?
Oui, les tenanciers de pharmacie n'amènent que des produits faciles à écouler. Pour eux, Walter, les conditions dans lesquelles ils fonctionnent d'abord ne leur permettent pas de bien conserver ces produits. Et aussi, les produits, le pouvoir d'achat de la population est faible à Bounia pour acheter ce genre de produits. Ça ne servait donc, ou ça ne sert donc à rien d'acheter un produit qui va expirer sur les étalages, suivant un tenancier d'une pharmacie.
Conserver les médicaments, surtout les spécialités, c'est un peu difficile pour les conserver. C'est pour cela qu'il y a carence des spécialités. Il n'y a pas d'argent, c'est ça. Les gens, c'est un peu difficile d'attraper l'argent pour acheter des spécialités. Bon, cet élément, c'est un peu difficile pour expliquer parce que pas d'argent et puis les choses, les spécialités, on les conserve difficilement. Souvent dans des kiosques et puis à la maison.
Le fait de vendre les médicaments ici dans des kiosques comme ça, vous ne voyez pas que c'est pas bien, c'est dangereux pour la santé?
C'est parce qu'il y a en fait la guerre. Nous avions des grandes pharmacies. Mais comme il y a la guerre, toutes les maisons sont occupées. C'est pour cela que nous sommes dans des kiosques.
Et les spécialités, vous les achetez où?
Les spécialités souvent à Kinshasa, à l'Europe. Et on les conserve à Butembo. Souvent, s'il y a un malade qui cherche les spécialités, on va envoyer une personne encore à Butembo pour l'amener ici à Butembo.
Par commande?
Oui, oui, par commande.
Godlib Mondo, une question. Alors, l'inspection médicale du district de l'Ituri, que fait-elle pour pallier à cette insuffisance des produits pharmaceutiques des spécialités? Concrètement, lorsque par exemple il y a des cas de maladies qui nécessitent le traitement par ces produits des spécialités, comment on fait à Bounia et comment l'inspection fait pour réglementer la vente des médicaments, parce que vous avez évoqué tout à l'heure les conditions très difficiles des ventes, pas de climatisation, parfois exposées au soleil.
Et il y a deux cliniques qui disponibilisent les produits des spécialités à Bounia. Il y a la clinique de Niakoundé et aussi MSF. Mais il faut de l'argent parce que c'est payant. Au moins pour Médecins sans frontières, c'est gratuit, mais il n'assiste que des victimes de guerre, notamment les femmes violées et aussi les blessées par balles. Pour ce qui est de la réglementation de vente, l'inspection s'est décidée d'encadrer ces pharmaciens parce que selon le médecin inspecteur, ces pharmaciens sont aussi utiles, même s'ils présentent un danger pour la population. Docteur Lonema Vadjerou, qui est médecin inspecteur du district de l'Ituri.
Oui, en fait, je suis devant un dilemme. C'est-à-dire, ces gens-là sont aussi utiles et parfois aussi, ils peuvent aussi être dangereux pour la population. Alors, pour pallier à cette situation, nous avons créé ce qu'on devait appeler Alpha Prix, qui est l'association des ténaciens des pharmacies. Parce qu'ils ne sont pas des pharmaciens, ils sont des commerçants. On les appelle les ténaciens. Ils sont avec nous. On essaye de les organiser à une association. Comme ça, nous avons un interlocuteur valable qui est le président et le comité avec qui nous pouvons dialoguer très souvent. Et on essaie tabiquement de les donner des petites notions de pharmacie. Et j'ai donné à leur disposition un assistant en pharmacie qui les encadre. De cette façon-là, nous pensons petit à petit à améliorer la situation. Mais nous demandons également au gouvernement de pouvoir songer à pouvoir disposer à Ituri un dépôt de pharmacie, un dépôt de médicaments. Parce que nous ne pouvons pas toujours ramener les médicaments de l'extérieur par plusieurs voies, par des moyens que on ne sait pas les décrire ici, chacun se débrouille, par des fraudes, par les lacs, on ne sait pas comment on les conserve, et ces produits sont consommés. Donc la population court aussi un grand risque, mais nous sommes devant un dilemme. Faut-il décourager les gens qui essaient de faire quelque chose, ou faut-il les encadrer? Bon, nous avons choisi la meilleure façon, nous pensons, c'est les encadrer, en attendant que le gouvernement prenne les choses en main.
Godlib Mondo, une dernière question avant qu'on se quitte, parce qu'on parle du domaine pharmaceutique, on sait qu'il y a des pharmaciens, des formations qui existent, on a déjà reçu d'ailleurs le secrétaire général de l'ordre des pharmaciens dans ce magazine. Est-ce qu'il y a des pharmaciens de formation à Bounia?
Et sur place à Bounia, il n'y a pas un seul spécialiste en pharmacie, mais on n'en trouve que deux assistants en pharmacie qui sont employés à l'inspection médicale du district.
Godlib Mondo, bonne année et on se retrouve l'année prochaine.
Merci beaucoup. Bonne année, Walter.
À l'année prochaine, Yagodé. Armand Tchelo, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordonnateur des programmes spécialisés au sein de l'ONG MEDER à Bounia. Nous parlons avec vous de cette question d'abord de carence des produits pharmaceutiques des spécialités. Pourquoi, à votre avis, il n'y en a pas à Bounia?
Ok, en fait, à ce qui nous concerne, nous MEDER, nous disponibilisons les produits essentiels pour les structures sanitaires que nous appuyons et nous ne faisons pas allusion aux produits des spécialités. Parce que nous nous limitons à leur fournir des produits essentiels.
Alors, par rapport aux produits essentiels, on constate à Bounia que les officines n'ont pas les conditions requises pour la conservation des médicaments. Notamment, c'est pas climatisé. Il y a des médicaments qui sont exposés à même les sols. Est-ce que vous ne craignez pas que les médicaments puissent perdre leur pouvoir de guérison?
Ok, cela est vrai. Oui, c'est ce que vous dites, c'est réel, mais. Pour le moment, vous voyez que nous sommes à contact avec notre bailleur de fonds et aussi le projet qu'on a soumis pour le moment, c'est pour l'approvisionnement en médicaments essentiels et nous limitons jusque-là et nous laissons pour l'inspection médicale et précisément le gouvernement à prendre sa responsabilité.
On a entendu tout à l'heure docteur Vajiro, qui est médecin inspecteur pour l'Ituri, qui a dit, je cite, il se trouve dans un dilemme face à, non seulement à la carence des médicaments, aux conditions dans lesquelles ces médicaments sont conservés, voire exportés. Est-ce qu'ensemble, vous qui êtes dans ce domaine précis de la pharmacie, est-ce qu'il vous arrive de discuter pour trouver les voies et moyens d'approvisionner régulièrement un médicament et que ce soit bien conservé surtout?
En fait, concernant les médicaments que nous disponibilisons, sont des médicaments de qualité et qui sont bien conservés, mais comme je l'ai dit tantôt, pour les produits de spécialité, MEDER n'est pas en mesure de les approvisionner maintenant. Peut-être dans les jours à venir, on pourra encore rediscuter cette question.
Vous arrive-t-il de parler avec certains tenanciers d'officines pharmaceutiques au niveau de Bounia pour ne serait-ce que leur rappeler les béaba, si vous voulez, les normes élémentaires d'une bonne conservation des médicaments? Êtes-vous en contact avec certains tenanciers d'officines pharmaceutiques avec lesquels vous pouvez partager ne fût-ce que les règles élémentaires d'une bonne conservation des produits pharmaceutiques?
Ok, merci pour la question. Je pense que nous allons entrer en contact avec l'inspection médicale et on peut peut-être les former pour qu'ils puissent assurer le minimum des conditions de sécurité pour ces produits qu'ils amènent.
Nous avons appris aussi tout à l'heure que Bounia ne compte que deux assistants à la pharmacie, qu'il n'y a aucun spécialiste en pharmacie. Est-ce que cette carence ne justifie pas, entre autres, le fait que le domaine pharmaceutique connaît des problèmes à Bounia et dans l'Ituri?
Je dirais oui, pas aussi parce que, par exemple, à ce qui nous concerne, nous sommes en contact avec le pharmacien formé, compétent et qui nous arrive de Beni par la trémise de notre bailleur, notre partenaire, disons, qui est le centre médical évangélique. Mmh. Alors, de ce côté-là, les problèmes ne se posent pas. Peut-être ce qu'on pourra faire ensemble avec l'inspection médicale, on pourra peut-être organiser une formation pour les tenanciers de pharmacie. On peut faire appel à ce pharmacien formé de Beni pour recycler cet ancien.
Un mot peut-être sur les programmes spécialisés de MEDER. Que faites-vous à Bounia en termes de programmes spécialisés?
Ok, concernant les programmes spécialisés, nous avons le programme de lutte contre le paludisme. Et à plus de soins curatifs que nous administrons aux patients dans les structures que nous appuyons, nous faisons également la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides. Et nous avons également le deuxième programme, c'est le programme de PEV et épidémie. Là, nous faisons essentiellement allusion aux vaccinations. Donc, on fait des accélérations et aussi nous suivons le PEV de routine. Il y a aussi le programme de sécurité transfusionnelle. Et pour ce faire, nous disponibilisons les étrants au niveau des structures de référence surtout, en vue que tout Congolais ayant besoin de sang puisse bénéficier de sang de qualité. Et aussi, nous avons le programme de formation. Voici donc les quatre programmes spécialisés que nous sommes en train de coordonner.
Merci, monsieur Ayman Tilo. J'étais très heureux de parler avec vous.
Ok, merci, moi également. Je vous remercie.
Au revoir. Au Capi Action, nous allons nous quitter dans quelques instants. Si mon technicien peut nous lancer le générique fin du magazine, tout simplement. On a eu ce petit problème. Oui, voilà, ça y est. Au Capi.